Bienvenue à Beta Finch, votre analyse d'earning alimentée par l'IA. Je suis Alex, et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour discuter des résultats impressionnants de Boeing au premier trimestre 2026. Ce podcast est un contenu généré par intelligence artificielle à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Rien de ce que nous discutons ne doit être considéré comme un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier qualifié avant de prendre des décisions d'investissement. Rejoignez-moi avec Jordan, mon co-animateur. Jordan, c'est bon d'être ici avec toi. On a pas mal de choses à couvrir aujourd'hui avec Boeing.
Merci, Alex. Oui, c'est un trimestre assez intéressant pour Boeing. Ils ont vraiment montré de la progression sur plusieurs fronts. Je suis curieux de creuser dans les détails avec toi.
Commençons par les gros chiffres. Boeing a rapporté un chiffre d'affaires consolidé de 22,2 milliards de dollars, en hausse de 14% d'une année sur l'autre. C'est une croissance solide à travers les trois segments clés, commercial airplane, défense et space, et global service.
C'est impressionnant, mais je veux vraiment comprendre ce qui se passe avec les marges. Le résultat net par action ajusté de base était négatif de 0,20 dollars. Comment Boeing peut-il croître en chiffre d'affaires mais toujours perdre de l'argent par action?
C'est une excellente question. Regardons Commercial Airplane en particulier. Ils ont enregistré une marge d'exploitation négative de 6,1%, mais c'est en fait une amélioration par rapport à l'année précédente. Jay Malav, le directeur financier, a souligné que cette amélioration est due à des volumes de livraison plus élevés et à un ajustement comptable favorable.
D'accord. Donc ils ne sont pas rentables sur ce segment, mais la direction dit que c'est une question de volume. Ils livrent 143 avions ce trimestre. Parle-moi du programme 737, qui semble être au cœur de tout cela.
Le 737 est absolument crucial. Boeing a stabilisé le taux de production à 42 avions par mois, ce qui était l'objectif. Il prévoit d'augmenter à 47 par mois cet été. Mais voici ce qui est vraiment intéressant.
Ils en parlent d'une augmentation future à 52 par mois, ce qui nécessiterait l'activation de la ligne North à Everett. Attends, 52 par mois? C'est exactement le taux qui a causé des problèmes chez Spirit AeroSystems en 2018. Je remarque que Boeing vient d'intégrer Spirit par acquisition. Est-ce que la direction a vraiment confiance qu'ils peuvent gérer ça cette fois?
C'est une question perspicace. Kelly Ortberg, le PDG, a reconnu le défi. Il a dit qu'ils ont appris des erreurs passées, et cette fois, ils augmenteront progressivement. De 42 à 47 d'abord, avec du temps pour adapter la supply chain, puis seulement à 52 quand la North Line sera opérationnelle et stabilisée. Il a également mentionné qu'ils ont des niveaux de stock importants qui agissent comme un amortisseur.
Entendu. Mais les stocks finissent par s'épuiser. Quand cela se produit, la supply chain doit vraiment tenir le coup. Qu'en est-il du 787? C'est un programme qui a également eu des problèmes.
Le 787 montre une dynamique différente. Ils ont livré 15 avions ce trimestre et visent toujours 90 à 100 livraisons pour l'année complète. Mais il y a eu un ralentissement en raison de certification de siège de luxe retardé. C'est unique, n'est-ce pas? Ils construisent les avions, mais ils ne peuvent pas les livrer parce que les sièges ne sont pas certifiés.
C'est fascinant et étrange. Cela semble être un problème de chaîne d'approvisionnement très spécifique. Comment la direction gère-t-elle cela? Vont-ils changer leur approche?
Jay Malav a mentionné qu'ils travaillent maintenant plutôt dans le processus de développement avec la FAA et leurs fournisseurs. Ils créent également ce qu'il appelle des offrants contractuels pour éviter les retards de livraison à l'avenir. C'est essentiellement une formule pour traiter ces problèmes avant qu'ils ne deviennent des blocages.
Parlons maintenant du segment défense et space. Il a grandi de 21% en chiffre d'affaires. Pourquoi cette croissance est-elle si importante?
Eh bien, c'est où les choses deviennent vraiment intéressantes, Jordan. Boeing a un carnet de commandes qui atteint maintenant 86 milliards de dollars pour défense et space, un record. Cela représente une croissance significative depuis l'année dernière. Et la raison? Le conflit au Moyen-Orient a augmenté les demandes opérationnelles pour leur plateforme.
Donc, en d'autres termes, les tensions géopolitiques augmentent les ventes de défense pour Boeing. C'est un argument de croissance intéressant, mais cela soulève également des questions éthiques que nous pouvons laisser de côté pour ce podcast.
Oui, c'est un point équilibrage. Kelly Ortberg a noté que les systèmes Boeing sont essentiels pour la supériorité aérienne, les frappes de précision et la guerre électronique. Les programmes comme le KC-46 Tanker et le F-15EX voient une demande importante.
Et quid du flux de trésorerie? C'est vraiment ce qui compte pour les investisseurs à long terme.
Bonne question. Boeing a enregistré un flux de trésorerie disponible négatif de 1,5 milliard de dollars ce trimestre, mais c'est principalement dû aux dépenses d'investissement saisonnières et aux augmentations CAPEX planifiées pour les expansions d'usines. La direction affirme toujours être en bonne voie pour un flux de trésorerie disponible positif de 1 à 3 milliards de dollars pour l'année complète.
Ils s'attendent à une amélioration au deuxième trimestre, avec le deuxième semestre étant positif. C'est leur affirmation ?
Exactement. Et il y a un détail que j'ai à mentionner, le paiement attendu du département de la justice au cours du second semestre. Ce paiement aura un impact sur les chiffres du flux de trésorerie, donc c'est important de le garder à l'esprit.
Parlons maintenant des commentaires vraiment avant-gardistes. J'ai à évoquer la possibilité d'un flux de trésorerie disponible de 10 milliards de dollars et même de croissance importante au-delà. Comment arrive-t-il à ce chiffre ?
J'ai à esquisser trois éléments clés. D'abord, les augmentations de taux de production du BCA, en particulier pour le 737. Deuxièmement, la récupération continue de la marge au sein de Défense et Space, où ils visent des marges en haut de simples chiffres. Troisièmement, la croissance continue de Global Service.
Donc, c'est vraiment une histoire de croissance des volumes, d'amélioration de la marge et d'absorption des coûts. Mais tout cela est contingent à l'exécution, n'est-ce pas?
Absolument. Kelly a mentionné à plusieurs reprises que la priorité absolue est de terminer les certifications. Pour le 737-10 et le 737-7, ils sont dans les phases finales. Pour le 777-9, ils ont obtenu l'approbation pour la phase TIA-4A, ce qui concerne les tests de glaçage. Il a indiqué que TIA-4B serait un paquet beaucoup plus volumineux.
Et le 777-9 a eu ce problème de durabilité du moteur, non? Comment cela progresse-t-il?
GE a identifié ce qu'il pense être la cause racine et travaille sur une modification. Boeing affirme que ce n'impacte pas leur calendrier de vol d'essai actuellement, mais ils devront effectuer des inspections périodiques. C'est quelque chose à surveiller, mais pas un blocage à ce stade.
Revenons à quelque chose que tu as mentionné plus tôt. La commande chinoise. Kelly a dit que c'était une grosse affaire, mais il ne pouvait pas donner de chiffres. Comment les investisseurs devraient-ils penser à cela?
C'est vrai. Kelly a mentionné que tout dépend des négociations États-Unis-Chine et qu'il y a un grand sommet prévu entre Trump et 11. Il a dit qu'il était très confiant qu'un accord au niveau des pays inclurait des commandes d'avions. Il a refusé de donner un nombre, mais a insisté sur le fait que c'était un grand nombre.
Donc, c'est potentiellement une source importante de croissance du carnet de commandes, mais c'est extrêmement incertain et dépend entièrement des négociations politiques.
Exactement. C'est un risque de hausse majeure, mais il est accompagné d'une incertitude politique considérable. Les investisseurs qui parient sur une récupération de Boeing doivent décider s'ils pensent que ce type d'accord est probable.
Regardons le tableau d'ensemble. Où se situe Boeing dans son cycle de récupération ?
Je dirais qu'ils sont à un point d'inflexion critique. Ils ont stabilisé les opérations, ont les certifications en vue, et ont un carnet de commandes énorme de près de 700 milliards de dollars. Mais la rentabilité réelle, non seulement à un segment, mais à l'échelle de l'entreprise, reste à venir.
Ils disent que les marges du BCA devraient devenir positives au milieu de l'année prochaine. Si cela se produit et que les taux de production augmentent comme prévu, cela pourrait être le début d'une augmentation majeure du flux de trésorerie.
C'est le cas. C'est vraiment un point d'inflexion majeur pour les investisseurs à surveiller. Mais il y a des risques géopolitiques, des risques de supply chain, et même des risques de certification qui pourraient retarder les choses.
Sans oublier que Boeing paie également un jugement du département de la justice, ce qui impacte le flux de trésorerie à court terme. Tout ce qui a été discuté est une analyse générée par IA à des fins éducatives. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Veuillez faire votre propre diligence raisonnable.
Merci d'avoir écouté Beta Finch. Nous reviendrons bientôt avec plus d'analyses d'earning. Abonnez-vous pour les dernières mises à jour. À bientôt. C'est tout pour l'analyse d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé cela utile, envisagez de soutenir Beta Finch sur Patreon. Votre soutien nous aide à améliorer nos voix et couvrir plus d'entreprises. Visitez patreon.com/betafinch pour en savoir plus. Merci de votre écoute.